Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous voilà de retour sur RMC, il est 7h10. Merci d'être là comme chaque dimanche, le week-end des experts. Vous savez que le samedi c'est le jardin et la maison, peut-être étiez-vous avec nous hier. Tout à l'heure ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Avec Jean-Luc, bien sûr, on traitera de toute l'actualité automobile. Jean-Luc répondra à toutes vos questions auto au 3216. Faut-il rouler au super éthanol au 85? On reviendra aussi sur cette polémique, hein, ce groupe sur Facebook qui communiquait en fait tous les radars dans une région. Il a été relaxé, ce groupe, suite à de longues suites judiciaires. Et puis on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com. L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Peugeot 2008 PureTech. L'automobile donc à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, deuxième acte de notre rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Et avant de retrouver notre vidéo LOLCAT de ce matin, avant d'évoquer une école pour lapins, avant de parler de médiation animale aussi, avant aussi de faire un focus sur les dauphins qui sont en danger sur les côtes bretonnes, nous allons évoquer le cheval, Laetitia, qui peut être un employé municipal.
Et oui, et c'est une tendance qui se confirme. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, il y a un congrès, un équi-meeting.
Un équi-meeting
sur le cheval territorial qui aura lieu à Angers. Et nous sommes avec Marion Lotte de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui organise justement ce meeting. Marion, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le cheval territorial, c'est un peu l'employé municipal des communes. Bien souvent, il s'agit d'ailleurs de chevaux de trait. Alors, dites-nous si c'est une réelle tendance en France et combien de villes emploient des chevaux?
Alors, effectivement, c'est plutôt une réelle tendance en France. Les chiffres peuvent être très variables. On avait entendu à peu près entre 70 et 200. Donc vous voyez que peuvent être différents. Oui, en fait, c'est lié au fait que 200 communes, c'est plutôt 200 communes qui ont à un moment utilisé le cheval, mais de manière récurrente ou uniquement ponctuelle. Et 70 communes, ce serait plutôt celles qui l'utilisent vraiment de manière importante et régulière dans l'année.
Alors, ils l'utilisent pourquoi? Je sais que certains chevaux sont employés à la collecte des déchets, mais je pense qu'il y a d'autres rôles aussi.
Alors, effectivement, on a vu apparaître assez récemment du transport scolaire aussi. Donc, on transporte les enfants
à l'aide de
voitures tirées par des chevaux de trait. Cheval ou en utilisant deux chevaux.
Mmh. Voilà, du coup, les enfants aiment bien aller à l'école.
Effectivement, et c'est notamment la ville de Vendargues dans le sud de la France qui a été vraiment, non pas pionnière, mais par contre qui aujourd'hui l'utilise vraiment de manière très régulière avec jusqu'à 3 voitures utilisées chaque jour pour transporter les enfants de Vendargues à l'école.
C'est génial ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les déchets, mais il y a aussi tout ce qui est espace vert.
Alors exactement, vous avez toute la partie entretien des espaces verts parce que aujourd'hui, derrière un cheval, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un petit véhicule qui s'appelle un avant-train, derrière lequel vous allez fixer une remorque, donc qui peut soit contenir de l'eau, soit éventuellement avoir une petite grue pour aller aussi chercher des sortes de poubelles enterrées. Vous avez aussi la possibilité de mettre des petites tondeuses ou des petites faucheuses. Donc aujourd'hui, en plus, il y a des constructeurs qui se sont vraiment posé la question du matériel qu'on pouvait mettre derrière le cheval de trait avec son avant-train. Et du coup, ça multiplie le type de travaux que vous pouvez faire aux chevaux.
Alors, qu'est-ce qui motive les communes à avoir un cheval territorial? À part l'image folklore, on va dire, quelle est la plus-value d'un cheval territorial?
Alors justement, aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout l'aspect folklorique qui est mis en avant, mais bien les aspects qui sont tous liés au développement durable. C'est-à-dire que mettre un cheval en ville, en fait, c'est d'abord recréer une forme de lien entre les gens, puisque l'utilisation du cheval permet en fait de créer une connexion entre les gens qui l'utilisent et le public, en fait. Donc ça, ce lien, il est très important. Ensuite, on
c'est
a.
C'est écolo
a...
aussi.
Oui, voilà, tout à fait, c'est écolo. Donc, effectivement, une fois qu'on a résolu la problématique éventuelle du crottin en ville en utilisant des ramasses crottins, tout simplement, eh bien, on peut tout à fait avoir une énergie, du coup, qui est quasiment sans pollution, c'est-à-dire que le cheval fait un bruit minimum. Au contraire, le pas des chevaux sur le bitume, c'est plutôt un son agréable, en tout cas pour tous les gens qui ont eu la chance d'avoir des chevaux en ville. Et puis donc, effectivement, ça ne dégage pas d'odeur nauséabonde. Ça ralentit effectivement un peu la circulation. Et aujourd'hui, on a aussi des maires qui s'en servent comme un argument, puisque ralentir la circulation en ville, ça peut être aussi intéressant. Et puis, on a réussi à prouver qu'à moyen et long terme, c'était économiquement viable.
Ah, bah justement, ça coûte combien ? Est-ce que le cheval appartient à la ville ou est loué par la ville ?
Alors, on peut avoir tout à fait deux types, en fait, de systèmes qui sont mis en place. On a un premier système qu'on appelle en régie, où la ville fait le choix d'acquérir l'ensemble, c'est-à-dire le cheval, le matériel qu'on met avec le cheval, et puis la commune fait former aussi les personnes qui vont agir avec le cheval. C'est très important, la formation. Donc ça, c'est le premier système. Et le deuxième système, c'est de faire appel à un prestataire de service. On en a quelques-uns aujourd'hui qui se sont spécialisés et donc qui n'agissent pas toujours avec les mêmes communes, mais qui rendent des services, donc sous forme de prestations, à des communes.
Et c'est un grand investissement pour la commune ?
Tout dépend, en fait, du nombre de chevaux que vous allez acquérir, des structures que vous avez pour maintenir les chevaux et les entretenir au quotidien, et du type de travaux que vous souhaitez leur faire faire.
Bah, quelle est la vie justement d'un cheval municipal ? Comment on... parce que en ville c'est pas voilà, il n'est pas à la campagne dans les champs. Comment s'assurer de son bien-être ?
Alors pour s'assurer de son bien-être, il faut penser qu'à un moment d'abord ce cheval, il faut qu'il soit d'abord dans une caractéristique morphologique, c'est-à-dire que sa morphologie soit complètement adaptée au travail qu'il va faire. Donc la première chose à vérifier, c'est que vous preniez un cheval qui soit pas trop jeune, qui soit en très bon état. On parle notamment d'aplomb. Il faut que ses pieds soient droits. Il faut qu'il ait une musculature qui lui permette de répondre d'abord aux efforts en fait qu'on va lui demander de fournir. Ça, c'est le premier point important.
Et ce sont ensuite, souvent des chevaux de trait.
Tout
des
à fait, c'est souvent des chevaux de trait. En France, on a la chance d'avoir 9 races de trait différentes.
Oui.
Et par conséquent, ça nous permet un peu de choisir, en fonction des types de travaux et de la région où on se trouve, le type de cheval qu'on va utiliser. Si on veut faire plutôt des travaux de traction un peu lourdes, du débardage, des choses qui vont nécessiter de la puissance, on va partir sur des chevaux type percheron ou breton ou trait du Nord. Si on a besoin de chevaux un peu plus vifs, un peu plus légers, on va partir sur des races comme le Cob Normand ou le Boulonnais.
D'accord. Et alors, c'est quoi leur vie en ville ?
Alors, leur vie en ville, en fait, ils ont un emploi du temps. Comme les agents municipaux ont un emploi du temps, le cheval en ville, bah, du coup, il a un emploi du temps.
Il fait les 35 heures par semaine ?
Alors non, en fait, c'est pareil. Le nombre d'heures réalisables par un cheval au quotidien, il est complètement dépendant, en fait, du travail que vous lui faites faire et de la topographie. Une ville qui aura beaucoup de pentes, vous n'allez pas forcément faire les mêmes efforts ou la même longueur d'effort à une ville qui sera complètement plate. Et tout dépend de ce que vous allez faire tirer au cheval. Donc, ça, c'est plusieurs heures de travail par jour, mais qui sont dépendantes de l'intensité de l'effort. Et donc, on prévoit aussi qu'il y ait des phases où le cheval puisse aussi, à l'intérieur de la semaine, sortir au paddock, avoir une activité qui soit autre.
Ouais.
Pas tout le temps monter, mais un peu atteler aussi, ou pas tout le temps atteler, mais un peu monter, de manière à ce que le cheval ne soit pas non plus trop dans une routine.
Alors, ce sont plutôt des petites communes qui prennent des chevaux. Ils dorment où le soir ?
Alors, ça dépend de l'organisation des communes. Pour certaines, en fait, il y a des communes qui avaient la chance, par exemple, d'avoir à l'intérieur même de la commune des parcs ou des centres équestres municipaux, et donc qui permettent d'avoir aucune difficulté particulière pour que le cheval ait un lieu particulier. Après, on a vu aussi des communes construire entièrement pour les chevaux territoriaux des installations spécifiques, donc des écuries en ville.
Mmh. Alors, est-ce qu'ils ont des vacances ? Les congés payés, c'est fait aussi pour
RTT.
Alors, on va pas parler de congés payés ou de RTT, mais en fait, c'est nécessaire de prévoir des périodes de vacances pour les chevaux territoriaux, parce qu'effectivement, vous l'avez très bien signalé tout à l'heure, c'est que le cheval, il n'est pas dans son environnement naturel. Il va être soumis à du bruit, à des lumières, à une ambiance qui, effectivement, est pas tout à fait celle dont il a l'habitude. Par conséquent, oui, on va prévoir d'abord dans chaque semaine de prévoir un ou deux jours de repos de manière à ce que le cheval puisse avoir une vie de cheval normale, on va dire, c'est-à-dire être au paddock, être en pâture, éventuellement avec d'autres congénères. C'est important aussi, le cheval, c'est quand même un animal grégaire. Et puis surtout, dans l'année, on va prévoir qu'à un moment, le cheval ait une mise au repos plus importante, de l'ordre jusqu'à un mois, comme un enfant qui partira en vacances. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est la remise au travail qui doit être progressive. Et en fait, il n'y a pas de devoir de vacances, si vous voulez, pour un cheval de trait. Mais par contre, il y a une remise au travail qui va permettre de le réutiliser à nouveau et de repartir pour une année.
Parfait. Pour éviter le blues de la rentrée.
Merci beaucoup, Marion.
C'est ça. Voilà,
c'est comme nous, en fait.
Comme nous. Merci, exactement. Marion Lotte.
De l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Qui organise l'équi-meeting cheval territorial à Angers cette semaine.
Voilà, et quand on croisera des chevaux comme ça maintenant dans nos villes, eh bien, j'imagine qu'on les appréciera différemment. 7h20, on revient dans un instant. Laetitia, après les chevaux, on va parler d'un sujet un petit peu plus grave, des dauphins. Parce que les dauphins seraient en danger.
Peut-être.
Hein. En tout cas, ceux qui sont sur les côtes bretonnes, on en parle dans une minute. A tout de suite, c'était RMC.
RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Nous sommes de retour sur RMC, le week-end des experts, les animaux. Et notez que dans quelques instants, on retrouvera la météo et les infos de 7h30. Après les chevaux, Laetitia, on va parler des dauphins, les grands dauphins qui seraient en danger sur nos côtes françaises.
En tout cas, c'est la question que l'on peut se poser après les résultats d'une étude. Celle de Cyril Zanutini, du groupe d'études des cétacés du Cotentin, que nous avons aujourd'hui avec nous.
Bonjour Cyril.
Cyril, bonjour.
Bonjour.
Alors, selon votre étude, les grands dauphins dans la Manche seraient contaminés. C'est une étude que vous menez depuis 3 ans. Quels sont les contaminants et comment avez-vous mené cette étude?
Oui, alors, voilà, c'est l'issue de 2 ans d'études. L'étude n'est pas encore tout à fait finie.
Oui.
Mais on a sorti un premier rapport qui effectivement mesure certains polluants. Donc, c'est des polluants plutôt historiques, c'est-à-dire c'est des polluants qui sont déjà maintenant pour la plupart interdits ou en tout cas soumis à restrictions.
Comme le mercure.
Comme le mercure, par exemple. Et nos résultats montrent en fait des concentrations importantes en mercure, justement, et en PCB, qui sont en fait des polluants industriels.
Alors, comment concrètement vous avez fait pour faire des prélèvements sur les dauphins?
Ça ne doit pas être évident.
Vous ne leur avez pas dit, allez, je te prends un peu de sang, je remets dans l'eau?
C'est là, effectivement, qu'il y a en fait toute la difficulté de l'étude, c'est en fait de récupérer des échantillons. Donc, il y a 2 solutions. Hein. Donc, soit c'est lorsque les animaux s'échouent morts sur les plages, où on peut là prélever en fait différents tissus, quoi. Par exemple, du foie, du rein, du muscle et du lard.
Oui.
Et sinon, sur les vivants, eh ben, c'est par arbalète, en fait. Il est muni d'un petit trépan qui permet en fait de prélever un petit morceau de peau et un petit morceau de lard, en fait. C'est la couche de graisse qui est assez importante, en fait, chez les grands dauphins et enfin chez les mammifères marins en général.
Et c'est dans cette graisse qui est concentré, en fait, tous les polluants que vous détectez après?
Voilà, donc en fait, c'est une couche où on va retrouver ce qu'on appelle les polluants organiques, c'est-à-dire les polluants qui vont être attirés par les lipides et s'accumulent au fur et à mesure de la vie de l'animal. Et les grands dauphins vivent très longtemps, ils vivent à peu près, alors on ne sait pas exactement, nous, dans notre région, combien de temps ils vivent, mais on peut estimer entre 40 et 50 ans d'espérance de vie.
Et du coup, ils accumulent. Vie,
voilà, c'est ça. En fait, c'est des substances qui sont très, très peu dégradables. Et que en fait le système de détoxification de l'animal n'est pas du tout habitué à rencontrer. Donc en fait, il ne sait pas bien les transformer, les métaboliser, et il va les stocker en fait tout au long de sa vie dans sa couche graisseuse.
Alors la question qu'on se pose, bien sûr, c'est vous avez trouvé vraiment des taux élevés de polluants dans ces prélèvements là quand vous avez été les chasser, enfin on dit entre guillemets, hein, dans le sens où vous avez été prélever ces petits bouts d'échantillons. Mais est-ce qu'ils mettent en danger la vie, la santé de ces dauphins?
Alors c'est là aussi que se joue toute la complexité de l'étude, c'est quand même des animaux du coup qui sont sauvages, où on a finalement peu de moyens de les étudier. C'est pas des souris de laboratoire qu'on peut étudier comme on veut, etc.
Ils sont pas dans un enclos, ils sont pas
Exactement. Donc et il faut aussi savoir que au final c'est un petit peu triste à dire, mais finalement tous les mammifères marins et tous les grands dauphins du monde sont contaminés en fait. Donc on n'a pas non plus de population de référence où on pourrait avoir des taux normaux d'hormones, etc. On ne sait pas vraiment très bien. Mais par contre, il y a eu quand même des études qui ont été faites, alors que ce soit in vitro ou par des grandes études qui ont duré très longtemps, etc. On a réussi quand même à mettre en place des seuils de toxicité. Enfin, pas moi personnellement, mais dans la littérature scientifique, il y a des groupes d'études aussi qui ont travaillé sur ce sujet. Et effectivement, il y a des seuils de toxicité qui ont été mis en place. Et les dauphins, justement, de la Manche dépassent très, très largement, en fait, ces seuils. Plus de 8 fois, par exemple, pour les PCB.
D'accord.
Et vous n'avez pas...
Donc, effectivement, on peut là mettre en évidence un danger, en fait, sur leur santé.
Ouais. Bah, on imagine, parce que... Déjà, nous, on fait très attention pour le poisson qu'on mange, parce que ils mangent, ils sont en haut de la pyramide alimentaire, donc ils mangent des poissons. Mm-hmm. Mais nous aussi, on mange les mêmes poissons. Donc, on imagine un petit peu aussi.
C'est-à-dire qu'on pourrait être tout aussi contaminé qu'eux, finalement.
Exactement.
Ouais.
Voilà. Alors, la différence, quand même, il y a des petites différences pour nous rassurer, c'est que, voilà, par exemple, l'humain a une alimentation très variée, se nourrit pas que de poissons, se nourrit aussi de végétaux et d'autres protéines également. Du coup, ça permet aussi d'avoir moins de polluants, par exemple, chez les humains. Mais c'est certain que chez l'homme, c'est la même chose.
Et puis on ne mange pas autant de poissons qu'eux aussi.
Et on ne mange pas, c'est ça. Ils ont une demande énergétique qui est très, très importante, parce qu'ils vivent dans l'eau, ils ont cette couche de graisse très importante. Donc, ils ont un mode de vie qui leur demande une grande énergie. Et du coup, ils mangent effectivement de très grandes quantités de poissons. Et ils ont aussi cette couche de lard qui est très importante, à la différence des humains, donc qui permet vraiment le stockage de ces substances. Et en plus, par rapport aux humains, ils ont aussi un système justement de capacité de transformer ces molécules qui est plus faible en fait que chez les humains.
Alors Cyrielle, je vous propose qu'on revienne dans un instant. Je savais pas qu'on parlait de lard de dauphin, Laetitia. Moi je pensais que lard c'était que chez le cochon. Et bien non, il y a du lard de dauphin.
Le lard c'est la graisse sous la peau.
Exactement. Donc mais j'apprends quelque chose encore une fois ce matin. Il est 7h28. On revient dans un instant. On évoque donc ces grands dauphins en danger sur les côtes bretonnes. Ils seraient on va dire contaminés par certains polluants et notamment le mercure. On en reparle dans un instant. Le 3216 et animaux@rmc.fr pour nous joindre. La météo, les infos. À tout de suite. Là, tiens, attention, petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Louane. Ma chatte blanche va avoir des chatons, là, tiens. Ça doit être la folie à la maison, là. Hein. Tout le monde est hyper excité. J'ai 12 ans et je ne sais pas ce que je dois faire pour préparer leur venue et aider Blanche, donc. Avez-vous quelques conseils pour moi?
Alors, Louane, d'abord, il faut, ne pas stresser. Tout va bien se passer. Hein, voilà. D'accord? Vous allez, tu vas voir Louane hein, quand elle va commencer à être fatiguée, à rester à l'intérieur, hein, ça sera les premiers signes. Puis elle commencera à ne plus manger, elle va s'isoler, elle va gratter un endroit et elle va faire ses petits dans cet endroit. Alors tu peux préparer son nid, ça c'est vrai, tu peux lui préparer un nid vraiment à l'écart, dans un coin, avec des serviettes éponges hein, pour la mise bas. Et peut-être qu'elle ira dans ce nid, ou peut-être qu'elle ira sur ton lit par exemple, pour faire ses petits, c'est elle qui va choisir. Il ne faudra rien faire. Si elle veut que tu sois là, tu la caresseras, tu lui donneras des paroles douces. Mais il ne faudra pas stresser. Il faudra juste désinfecter le cordon ombilical des petits avec de la bétadine. Et il faudra juste veiller à ce que tous les petits aillent à la mamelle. C'est très important qu'ils boivent le premier lait. Et puis ce que tu pourras faire, Louane, dans les jours qui suivent, c'est tous les jours manipuler les petits et les peser.
D'accord.
Parce qu'il faut qu'ils prennent du poids tous les jours. Si tu vois qu'un des chatons ne prend pas de poids, tu lui donnes un biberon avec du lait maternisé.
Qu'on achète là, dans le commerce, c'est
voilà,
ça
chez le vétérinaire. Voilà, sans problème. Et si vraiment
mais c'est du lait maternisé pour animaux, c'est pas du lait maternisé pour bébé.
Pour animaux, pour chiens et pour chats, hein, c'est vraiment du lait très spécial. Ne lui donne pas du lait pour bébé, pour bébé en bas âge. Et puis, dis-toi aussi que la mise bas peut durer de 1 à 8 heures, voire plus pour la première mise bas.
D'accord.
Ne pas s'inquiéter.
Et là, on laisse faire.
Et voilà.
On laisse faire et le miracle de la vie s'accomplira.
Bien sûr.
32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend.
RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Il est 7h35, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. Et puis, tout à l'heure, ça sera Jean-Luc Moreau qui nous rejoindra pour 2 heures dédiées à l'automobile comme chaque dimanche matin. Tout va bien, Laetitia ?
Tout va bien,
bon,
tout va bien.
Tout à l'heure, on va parler de médiation
animale.
On découvrira aussi une école pour lapins. Alors là, franchement, je suis un petit peu dubitatif quand même. Mais d'ici là, on évoque les grands dauphins qui seraient en danger sur les côtes bretonnes.
En tout cas, ils sont contaminés. C'est les premiers résultats d'une étude menée par Cyrielle Zanutini, du groupe d'études des cétacés du Cotentin, qui est toujours avec nous, Cyrielle. Alors, on parlait là pendant les informations avec François. On parle de grands dauphins dans la Manche, donc vous avez des résultats, ils sont contaminés par divers polluants, dont le mercure. Mais est-ce que l'on peut dire que tous les dauphins, est-ce que par exemple dans la Méditerranée, les dauphins sont concernés aussi, dans d'autres mers?
Oui, tout à fait, et particulièrement aussi la Méditerranée, qui a aussi des records de pollution.
Et oui.
Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que c'est une étude qui est assez... qui est assez de grande envergure, en fait, parce qu'on a beaucoup d'échantillons.
Oui.
Et ce qui nous permet, du coup, d'avoir une certaine une robustesse de l'étude. Des fois, il y a d'autres études qui sont faites avec moins d'individus, donc c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup, en fait, de facteurs à prendre en compte, comme le sexe entre les mâles et les femelles.
Oui.
Avec,
oui,
effectivement, les mâles qui sont souvent beaucoup plus contaminés que les femelles.
Mais ils sont plus gros aussi. Peut-être qu'ils mangent plus.
Alors souvent, ce serait plutôt le contraire, en fait.
Bon,
c'est plutôt la femelle qui va effectivement qui est un peu plus petite, mais c'est très difficile déjà de voir cette différence-là à l'œil nu. Mais elle va aussi beaucoup plus manger parce que elle a des cycles de vie, comme par exemple la reproduction, qui va générer une demande énergétique très importante, surtout pendant l'allaitement et la gestation.
Mais vous...
c'est aussi à ce moment-là qu'il y a un transfert qui se fait vers, en fait, les petits.
Alors, vous parlez de beaucoup d'échantillons que vous avez fait, parce qu'on a parlé juste avant les informations, comme quoi vous avez fait des prélèvements sur des dauphins vivants.
Oui,
comment,
oui,
faites-vous pour faire la différence? Parce que quand vous partez faire ces prélèvements, vous tombez sur un banc de dauphins. Comment faites-vous pour ne pas faire le même prélèvement sur le même dauphin?
Ah ben alors là, c'est après, il y a un suivi qui se fait donc de ces animaux tout au long de l'année, depuis 2008 à peu près.
Oui.
Où en fait on sait reconnaître chaque individu grâce en fait à leur aileron.
D'accord.
Et en fait leur empreinte digitale, où au cours de la vie de l'animal, l'aileron va avoir des marques en fait au fur et à mesure, soit des griffures ou des encoches, qui va nous permettre en fait par la suite de les identifier chacun.
Ah oui. D'accord.
Ah d'accord.
Voilà. Alors... Et après, c'est arrivé quand même qu'il y ait eu parfois l'animal qui a été biopsié en fait 2 fois.
Ah oui, voilà.
Mais c'est des
tout petits,
oui,
échantillons.
Oui,
hein,
oui.
C'est pas.
Oui,
voilà.
C'est très rapide. C'est comme un peu une piqûre, bon, une grosse piqûre.
Oui, c'est pas quelque chose qui les traumatise. Alors, justement, vous parlez de suivi de population de dauphins. Dites-nous un peu, parce que je sais que vous avez vous faites des études avec ce groupe d'études des cétacés du Cotentin. Les populations se portent bien sur les côtes bretonnes et normandes?
Alors, c'est encore une fois une question qui est assez compliquée à répondre parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a fait le suivi que depuis 2008. Et comme c'est des animaux qui vivent très longtemps, ça nous donne pour l'instant très peu de recul pour savoir si effectivement la population, est-ce qu'elle elle augmente, elle diminue. Pour l'instant, nos études montrent plutôt qu'elle est stable, voire qu'elle augmente. C'est effectivement paradoxal par rapport à leur état de santé qui paraît...
Ben oui.
Ça vit combien de temps un dauphin en moyenne, Cyrielle?
Entre 40 et 50 ans.
Ah oui, ouais. D'accord.
Voilà.
Ah ouais,
c'est pour ça que pour l'instant, on n'a qu'une fenêtre de 8 ans, qui effectivement ne nous permet pas forcément de tirer encore des conclusions sur voilà, est-ce que la taille de la population est en augmentation ou pas? Ça, c'est encore difficile à dire. Nos résultats montrent plutôt qu'ils sont à l'augmentation, qu'il n'y a pas une baisse, en tout cas, radicale d'une année sur l'autre.
Oui, ce qui est plutôt rassurant, quand même.
Bon, de toute façon.
C'est plutôt rassurant. Voilà. Mais, par contre, on voit qu'il y a peu de naissances. Mmh. Et, en fait, il y a peu de petits qui vivent au-delà de l'âge de 3 ans.
Et est-ce que les contaminants, ces polluants, peuvent être un facteur justement de mortalité des petits?
Oui, justement, parce qu'il y a un transfert qui se fait via en fait la mère. Souvent, les petits ont un système immunitaire et de métabolisation qui est plus faible qu'un adulte. Mmh. Il se prend en fait une très grande dose de polluants à chaque fois. Et ça peut avoir, en fait, effectivement, des lourdes conséquences. Mais encore une fois, c'est très difficile, en fait, d'attribuer une cause de mortalité avec un polluant. Parce qu'il va agir indirectement, en fait.
Oui, sur la santé.
Par exemple, le système immunitaire, il va l'affaiblir. Donc, en fait, l'animal va mourir, par exemple, d'une infection. Mais ça va être causé indirectement, finalement, la pollution.
Merci Cyrielle pour toutes ces précisions.
Merci Cyrielle.
Voilà.
Merci pour l'étude que vous faites sur ces grands dauphins. C'est quand même une étude unique.
Oui.
Et puis, ben voilà, on prendra des nouvelles de nos dauphins plus tard, bien sûr. Merci.
Merci beaucoup. Et on va évoquer maintenant un tout autre sujet, Laetitia. On va parler de médiation animale.
Oui, et nous sommes avec Anne-Gaëlle Bresson de l'association Ciel Bleu. Anne-Gaëlle qui vient de recevoir un prix au dernier congrès international de médiation animale qui a eu lieu cet été à Paris. Et un prix pour son travail avec sa chienne dans une maison de retraite. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Anne-Gaëlle, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes enseignante en activité physique adaptée. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Ce sont des activités physiques pour des personnes en situation de handicap ou en difficulté. Et vous venez d'être récompensée, comme je viens de le dire, pour un projet de médiation animale avec votre chien. Alors, comment vous est venue l'idée d'associer à vos activités votre chien?
Alors, en fait, bon, pour resituer un peu, l'activité physique adaptée, en fait, on adapte le sport aux personnes donc, qui ont des difficultés, des handicaps ou qui sont dans les maisons de retraite pour maintenir l'autonomie. Et en fait, tout simplement, un jour, j'étais dans une séance d'activité physique adaptée dans une maison de retraite. Et il y a le chien qui habite dans la maison de retraite, parce que ça arrive, qui est entré dans la salle où j'étais en train de faire mon cours. Et en fait, il y a une personne qui est très introvertie d'habitude et avec qui j'ai beaucoup de mal à travailler, qui s'est transformée à la vue du chien. Elle l'a appelé, elle a attrapé une balle pour lui lancer, elle s'est complètement transformée, et là j'ai entendu le son de sa voix, parce que d'habitude elle parlait pas. Et là, c'est là que je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire avec l'animal pour des personnes dans de telles situations. Et j'ai ensuite eu la même expérience dans un autre établissement qui avait des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, où une résidente, sa famille est venue avec leur chien, et pareil, toutes les personnes qui étaient présentes se sont intéressées aux chiens et ma séance a été différente. Ils ont été beaucoup plus attentifs, beaucoup plus motivés, ils étaient souriants, c'était plus la même chose. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à monter dans la médiation animale et de mêler mon activité professionnelle à la médiation animale. Mais j'aurais jamais lancé ce projet si j'étais pas si j'avais pas eu un lien en fait avec les chiens dans ma vie personnelle, si j'avais pas eu une expérience en club canin, si on m'avait pas formé
Oui.
avant, en fait.
Vous connaissez les chiens, vous savez les éduquer, enfin vous voilà, vous avez quand même des bagages, on va dire, concernant l'éducation canine, et vous avez adopté un chien, c'est ça?
C'est ça. En fait, avant d'avoir la chienne qui m'accompagne dans mes séances, j'ai adopté deux chiens en SPA. Il y a 3 ans, qui avaient des problèmes d'éducation parce qu'ils avaient été maltraités, abandonnés, donc il y avait des soucis, il fallait les rééduquer. Et donc j'ai fait appel à une éducatrice comportementaliste sur Montpellier qui m'a beaucoup aidée pour rééduquer ces chiens. Et en plus, je me suis rendue dans un club canin qui utilise la méthode positive et qui m'a permis de rééduquer en fait ces chiens sur 3 ans et de les comprendre. D'apprendre à étudier le comportement canin, à comprendre pourquoi le chien mord, pourquoi il va grogner à ce moment-là, pourquoi est-ce que il faut pas frapper un chien quand il fait quelque chose parce qu'il comprendra pas.
Mmh. Et que la méthode positive où on utilise en fait la récompense, le plaisir, peut devenir aussi un plaisir pour en fait le maître. Travailler avec son chien devient un plaisir pour les deux. Il y a une complicité qui se fait et qui s'apprend comme ça dans des clubs canins où je vais et où on travaille vraiment dans le positif.
Voilà, et j'imagine que là, les deux progressent à une vitesse folle, quoi. En plus, ça.
Voilà.
Et alors,
3 ans, oui.
Est-ce que vous prenez ces chiens pour vos activités physiques ou
alors, non.
Vos séances?
Du coup, j'ai pas choisi de prendre les deux chiens que j'avais adoptés en SPA parce qu'ils avaient un vécu qui était trop difficile. Je voulais pas leur faire revivre des choses qu'ils auraient pu vivre avant, étant donné que je connaissais pas leur passé.
Et oui.
Parce que il y en a un qui avait été frappé, donc on sait jamais les réactions des personnes qui peuvent avoir des déficiences, si elles ont peur, par exemple, ou même si l'animal s'assoit pas parce que il le fait pas et ça leur plaît pas, elles vont peut-être avoir envie de le gronder comme peut-être elles avaient fait elles avec leurs animaux, et je voulais pas recréer ça sur mes chiens qui avaient déjà eu des problèmes. Donc j'ai choisi de prendre un chien, mais là par contre je suis passée par un élevage pour pouvoir dès la naissance en fait que le chien soit socialisé et qu'il ait peur de rien en fait. Donc j'ai fait un travail avec l'élevage aussi où j'ai récupéré ma chienne pour que vraiment elle soit adaptée à ce type d'activité.
Alors quel est le rôle de votre chienne qui est un berger allemand, hein, si je me souviens bien?
C'est un berger allemand ancien type. Donc c'est une race un peu plus ancienne que le berger allemand classique, mm-hmm. qui est un peu plus robuste, elle est beaucoup plus grande. Elle a des poils longs et elle a le dos très droit. Elle n'a pas le dos courbé, voilà. Pour les personnes qui ne voient pas exactement ce que c'est.
Alors, quel est le rôle de cette chienne pendant les séances?
Donc, en fait, le rôle, à la base, je l'ai prise dès ces 2 mois en séance. Au début, elle participait pas du tout, c'était juste de la présence pour l'habituer. Et en fait, c'est de voir comment les personnes vont évoluer avec ce chien. Parce que y a des personnes que j'avais avant sans le chien, qui participaient très peu, ou qui venaient, mais bon, en fait, je sentais bien que ça les motivait
obligé.
Pas du tout.
Obligés.
Ouais, pratiquement.
Ils sont pas obligés. Faire du sport, c'est...
Il y en a qui ont du mal, surtout en maison de retraite. La réflexion qu'on me fait souvent, c'est moi j'en ai déjà fait toute ma vie, j'ai pas besoin d'en faire maintenant. Et donc en fait, il faut, on peut pas forcément leur dire oui mais c'est pour vous maintenir, c'est compliqué à faire passer comme message. Alors que là, avec le chien, quand le chien est là, quand j'arrive avec la chienne, déjà ils sont contents parce qu'ils voient un chien, il y en a beaucoup qui ont plus cette présence-là depuis longtemps. Et ils voient la chienne, ils disent bonjour à la chienne avant de me dire bonjour. Et ils
toujours.
Vont dans la salle.
Non, mais ouais. Moi, dans la rue, c'est pareil. On dit bonjour à mon chien avant de me dire bonjour, c'est pareil.
Voilà. Là, c'est exactement ça. Et ils ont associé, pour la plupart, le fait que quand il y avait le chien, il y avait gym. Donc là, c'est gagné. Ça veut dire qu'ils sont motivés pour y aller.
C'est bon. C'est bien pour motiver les gens à faire du sport, en fin de compte.
Moi, voilà.
J'ai demandé au prof de sport de prendre un chien. Comme ça, tout le monde ira à la gym. Mmh.
Voilà, c'est un peu ça le principe, c'est de trouver une motivation. Et beaucoup, il y en a qui disent « Ah, il y a la chienne, alors j'arrive ».
Alors elle fait aussi du sport. Enfin, j'imagine que dans ses activités, il y a par exemple lancer la balle ou des choses comme
voilà.
ça, non?
Alors en fait, j'ai commencé progressivement, étant donné qu'elle avait 2 mois, je voulais surtout pas la dégoûter en fait de toutes ses activités. Donc au début, elle faisait juste acte de présence. Et quand on a un chiot de 2 mois, ça marche très bien. Et plus elle a grandi, plus on a commencé à mettre en place des exercices. Donc voilà, par exemple, envoyer la balle, mais il fallait aussi qu'elle la rapporte pour qu'il y ait aussi un plaisir mutuel. Et d'autres exercices où les personnes ont la balle dans la main doivent faire un parcours, parce qu'on travaille l'équilibre, on travaille la prévention des chutes. Donc ils font un parcours moteur, ils vont poser la balle à un endroit de la salle, et ensuite on demande à la chienne d'aller la chercher. Donc là, il y a un lien entre les deux exercices. Il y a le lien où la chienne va chercher la balle, mais eux vont poser la balle pour que la chienne travaille. Donc en fait, je fais le lien comme ça. Et des fois, en fait, elle ne participe pas du tout. Elle participe
d'accord.
une demi-heure maximum.
Merci beaucoup, Anne-Gaëlle.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
De rien.
L'association Ciel Bleu, donc.
Voilà,
avec un S.
Avec un S.
S dans le ciel.
Merci.
Merci. Bravo,
merci.
En tout cas, pour
la
ce que vous faites.
La médiation animale. Laetitia, alors là, le suspense reste entier pour ce qui va arriver. Vous allez nous parler d'une rabbit school, une école pour lapins?
Une école pour lapins, oui.
Alors, je savais que c'était la rentrée pour beaucoup d'énergumènes, mais pas pour les lapins. Bon, on va découvrir ça dans un instant avec notre invité. 32-16 si vous voulez nous joindre. C'est votre rendez-vous animaux du dimanche matin. À tout de suite.
RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
À suivre sur RMC dans un instant, la météo, les infos de 8h. Et puis ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau comme chaque dimanche, 8h-10h. Toutes vos questions auto au 32-16. Laetitia, on va terminer ce rendez-vous animaux avec une école un peu particulière, parce que c'est une école pour lapins. C'est bien ça, hein, on a bien compris.
Oui, on va la découvrir avec le docteur Adeline Lassard, qui est vétérinaire, qui exerce exclusivement la médecine des NAC. Vous savez ce que c'est? Les nouveaux animaux de compagnie, donc, dont les lapins. Au centre hospitalier vétérinaire de Saint-Martin-Bellevue, c'est en Haute-Savoie. Adeline, bonjour.
Oui, bonjour Laetitia. Oui, bonjour.
Merci.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, quelle drôle d'idée, une école pour lapins. Expliquez-nous.
Alors, dans ma pratique, je trouvais pas ça être une drôle d'idée, mais je comprends quand on a plus l'habitude de voir les chiens et les chats. C'était un peu inspiré des puppy schools, hein, de l'école du show qu'on voit fleurir en France, et puis d'un véritable besoin des propriétaires qui trouvent peu d'informations fiables pour leurs lapins et qui arrivent aux premières consultations assez démunis.
Oui,
ils savent pas qu'il faut vacciner, qu'on peut vermifuger un lapin, adapter l'alimentation de manière vraiment équilibré, puisque ce qu'ils donnent souvent après l'adoption, ça va être beaucoup de granulés, peu de foin. Il faut qu'on fasse un petit peu tous ces changements après les avoir rencontrés.
Et alors, dans votre clinique, vous faites des... Alors, l'école pour lapins, c'est en fin de compte des séances que vous faites dans votre clinique pour les propriétaires de lapins de moins de 3 ans. Comment se passent ces séances?
Oui, alors on a choisi le public des lapins de moins de 3 ans pour rester dans le cadre de la médecine préventive, hein, parce que c'est vrai que les conseils qu'on va donner sont généraux. On a des réunions, donc 3 séries de réunions qui abordent l'alimentation, la prévention des maladies et l'entretien, c'est-à-dire comment couper les griffes, nettoyer les oreilles d'un lapin, et puis une dernière réunion sur le comportement. Et c'est vrai que toutes ces choses-là ne s'adressent qu'à un lapin en bonne santé. Les lapins qui commencent à avoir, par exemple, des problèmes urinaires, ben, n'auront peut-être pas les mêmes conseils alimentaires qu'un lapin qui va bien. Donc c'est pour ça qu'on a restreint ça aux lapins de moins de 3 ans. Donc c'est vraiment tous les lapins en bonne santé qui sont invités, qui appartiennent à notre clientèle. Hein. Et donc on va faire 3 séries de réunions qui se présentent toujours de la même manière. Une partie un peu magistrale, on va dire, mais très interactive avec un PowerPoint.
Oui.
On donne un petit peu les bases théoriques, donc comme un vrai cours, hein, c'est la Rabbit School. Et puis par contre, vraiment des travaux pratiques ensuite à chaque séance. Par exemple, sur la partie alimentation, bah, moi je vais la veille acheter des légumes, je ramasse un petit peu de verdure, même dans mon jardin, hein, je cueille des fleurs de capucine, des pissenlits. On met tout ça sur des tables avec des couteaux, des assiettes et surtout des balances. Et les gens vont apprendre, par rapport à ce que je viens de leur dire de manière théorique, voilà, un lapin, ça doit manger 100 grammes par jour de verdure pour un lapin de 1 kg. La règle, c'est 3 végétaux différents chaque jour. Bah, composez-moi une assiette. Et puis, on voit un petit peu ce que les gens font en direct. Et
même en ayant... on fait la cuisine pour lapin aussi, alors.
Ouais, on fait la cuisine. Même en ayant expliqué avant, en fait, il faut encore des erreurs parce que, voilà, on est tous remplis de nos convictions, de nos habitudes. Donc, ça permet vraiment de... En fait, quand ils font par eux-mêmes, ils retiennent, quoi.
Alors, est-ce que ce sont des adultes qui viennent ou ce sont des enfants? Parce que, bien souvent, le lapin, c'est l'animal de l'enfant.
Bah alors c'est très intéressant, c'est vraiment majoritairement des adultes. Le lapin, alors dans les clientèles justement de vétérinaires NAC, le lapin c'est vraiment l'animal de jeunes adultes en couple, on va dire de 20 à 40 ans.
C'est le premier enfant du couple, c'est ça?
Oui, on peut le dire comme ça, les NAC sont souvent les premiers enfants d'un couple. Et puis après des vrais passionnés aussi. On voit quelques enfants en Rabbit School, mais c'est vraiment pas du tout le public le plus fréquent.
Mais ils viennent avec leur lapin?
Alors, pas sur toutes les séances, parce que tous les sujets s'y prêtent pas, mais sur la réunion d'entretien et de prévention, les gens sont invités à amener leurs lapins. Alors, on recrute quand même des lapins pas trop stressés. C'est-à-dire que moi, j'en parle beaucoup avec les gens à la fin de la première réunion, et on connaît un peu le caractère de leurs animaux. Hein, donc, on leur dit, bah non, vous, malheureusement, il vaut mieux pas amener votre lapine, on sait qu'elle est assez stressée. Puis d'autres lapins qui sont très cool, effectivement, vont pouvoir venir pour qu'on manipule vraiment en direct sur eux, quoi.
Alors, vous qui voyez des propriétaires de lapins tous les jours, quelles sont les plus grosses erreurs que vous observez, les plus grosses idées reçues que l'on a sur les lapins?
Alors, il y en a beaucoup, mais je crois que le pire, c'est Bugs Bunny. C'est la carotte.
C'est la carotte. Alors, est-ce qu'il faut donner des carottes aux lapins?
Ils n'aiment pas les carottes, les lapins, ça c'est
alors,
un scoop quand même.
Tant. Ils préfèrent de très loin la verdure, les herbes aromatiques, la menthe, le basilic à une carotte, c'est certain. Après, souvent, l'erreur, c'est de donner une carotte entière tous les jours en se disant « c'est super, c'est bon pour mon lapin et comme ça, je donne des légumes ». Alors qu'une carotte, c'est du sucre, beaucoup de vitamine A, c'est pas si intéressant que ça.
Donc, un peu de carotte, certes, mais pas tout le temps.
Voilà, en fait, la règle, c'est de varier pour équilibrer. Dès qu'on donne toujours le même légume, on est en train de faire une bêtise, c'est certain.
Alors, je crois que ces écoles vont se généraliser dans d'autres cliniques vétérinaires.
Oui, par le biais du réseau Revelnac. Donc, on est une quinzaine de vétérinaires en France à s'être fédérés en un réseau pour vraiment justement développer toutes ces bonnes pratiques. Et donc, le CHV où je travaille servait un petit peu de base d'essai. On a donc fait des rabbit schools en 2015-2016 avec vraiment un grand succès à chaque fois. Là, j'ai des collègues dans les Hauts-de-France qui l'ont fait en juin et ça a aussi très, très bien fonctionné. On a des très bons retours des propriétaires qui redécouvrent vraiment leurs animaux à chaque fois.
Donc, des rabbit schools un peu partout en France. Merci beaucoup Adeline. Voilà. Merci.
On mettra le lien de l'association sur Facebook justement pour voir s'il y a des rabbit scouts dans votre région.
Bon, Laetitia, c'est l'heure de notre petite vidéo Lodcat maintenant avec une vidéo étonnante en une minute. Ce petit chien fait 32 tours.
Oui, sa maîtresse lui a appris 32 tours.
En une minute. Ça ne s'arrête pas, c'est
alors
impressionnant.
C'est pas le tour sur lui-même, des tours différents.
Voilà, des petits exercices, on va dire.
Voilà, alors ces exercices, regardez-le, ça dure une minute. Et surtout, moi j'adore, c'est le tout dernier exercice.
Qui est très drôle. À découvrir donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, vous cliquez sur J'aime Laetitia. On se retrouve dimanche prochain 6h-8h sur RMC.
Et oui, et je vous souhaite un très très bon dimanche, une bonne semaine. Et vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain. Je vous embrasse.
Et dans un instant, ça sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau pour ce week-end des experts. À tout de suite.